cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard le 26 novembre 1993.
Nous allons continuer au plan métaphysique, parce que je crois que au plan de la philosophie première, comme de toute la philosophie, il est très important pour nous de redécouvrir ce qu'est l'induction. Et toute la scolastique décadente l'a oublié. C'est pas étonnant, puisque on a voulu retrouver la philosophie à partir de la théologie de saint Thomas. Or, au sens strict, en théologie, il n'y a pas d'induction. La foi donne l'adhésion à une vérité et nous essayons d'expliciter cette vérité en nous servant d'analogie. Ce n'est pas l'induction. On ne découvre pas un principe propre de la parole de Dieu, puisque ce principe propre, c'est Dieu lui-même, qui est objet de la foi. C'est l'Esprit Saint. Donc, il n'y a pas d'induction en théologie scientifique. On cherche le commodo, comme dit saint Thomas, le comment. Et non pas le diesti. C'est toute la différence qui existe entre théologie et philosophie. Or, vous ne pouvez pas redécouvrir le diesti à partir du commodo. Surtout que ce commodo est un commodo qui dépend de la foi. Alors, pratiquement, on ramène tout à des définitions. Ce qui fait que la scolastique, pour des esprits qui ne sont pas dans le sérail thomiste, c'est inintelligible. Parce que l'autorité de Thomas d'Aquin est toujours là. Or, si l'autorité de Thomas d'Aquin est toujours là, c'est pour la philosophie la dernière des raisons. Saint Thomas lui-même le dit. Vous voyez, saint Thomas a condamné la scolastique avant qu'elle existe. Parce qu'il a dit que la scolastique s'appuie sur l'autorité de Thomas d'Aquin. Alors, c'est très bien, c'est pas condamnable, vous voyez. Mais ce n'est pas une formation d'intelligence. Ça explique, vous voyez, des quantités de choses. Comment se fait-il que des quantités de prêtres, des quantités de religieux formés à la scolastique, devant les secousses qu'il y a eu pendant ces 50 dernières années, ont tout abandonné? Si leur intelligence avait été formée, ben ils auraient résisté. Et les laïcs ont mieux résisté. Parce que les laïcs connaissaient très peu la scolastique. À part quelques-uns, leur front, très peu. Et ils aimaient saint Thomas, puis c'est tout, ils aimaient saint Thomas comme un théologien. Et ils gardaient leur bon sens de foi. Ils revenaient toujours à la foi. Je me souviens une fois, dans une petite querelle qu'il y avait, puisque à Fribourg, il n'y avait pas de faculté de philosophie, alors les professeurs de philosophie étaient ou dans les lettres, la faculté des lettres, ou faculté théologique. Ce qui a existé dans le temps en Allemagne. Alors, comme il s'agissait d'un problème grave au point de vue théologique, j'ai cru mon devoir d'intervenir. D'habitude, je me taisais, puis je laissais tranquille. Mais là, c'était quelque chose d'assez important. Alors un des pères, on dit, mais mon père, vous n'êtes pas théologien. Alors j'ai simplement dit, je suis croyant et ma philosophie me donne une acuité intellectuelle pour mieux comprendre les erreurs. On n'a pas besoin d'être théologien pour trouver qu'une conclusion théologique est fausse. Il suffit d'être croyant. Et ça a été de fait la réaction de quantité de laïcs qui ont dit, mais non, on ne peut pas accepter ça. Vous voyez ? Alors, comprenons bien que la philosophie, Dieu en philosophie, toujours terre vierge, ou forêt tropicale. Alors évidemment, il y a des mauvais serpents, il y a des bois, il y a des tas de trucs qu'on rencontre. C'est bien évident, forêt tropicale, ou désert. Ça dépend quel genre de philosophie. Le désert, il n'y a pas de piste, rien du tout. Puis quelquefois, des pays tellement civilisés que c'est toute une histoire de construire nos autres. On doit démolir pour construire nos autres. Oui, et nous sommes un pays très civilisé, nous. L'Europe est très civilisée. Et on doit détruire beaucoup de choses avant de retrouver le sol. Parce que je ne peux pas construire sur des vieux murs. Et me servir de Bergson pour construire, c'est quand même des vieux murs. Me servir de Wolf pour construire, ce sont des vieux murs. Me servir de Kant pour construire, c'est des vieux murs. Me servir de Descartes, ça c'est l'archéologie. Je dois retrouver le sol vierge. Je ne peux construire comme ça. Parce que seule la réalité existe. Elle existe vraiment. Les autres existent selon un être artificiel, sans substance. Il n'y a pas de substance propre du pain. Hein? Puisque le pain est un être quand même artificiel. Jamais vu le pain pousser. Mais c'est comme le gosse quand il avait la première fois qu'on lui sert des macaronis. Comment ça pousse? Mais en Italie, c'est évident. Et ça pousse tout seul. Et selon les sols différents, ça a des formes différentes. Et constamment, nous faisons des choses comme ça. Je prends cet exemple parce qu'il est très, 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 très net. Mais nous faisons des choses comme ça. Nous croyons construire sur la réalité. Et on construit tout simplement sur des macaronis. C'est-à-dire, on construit sur des choses qui sont faites par l'homme et qui sont faites en série et que tout le monde accepte. Tout le monde accepte Descartes. Tout le monde. Je construis sur Husserl, pas très très bien. Je construis sur saint Thomas. Oh non. Je construis sur saint Thomas. Oh non. Oui, c'est très curieux, ça. Les a priori, au point de vue philosophique, sont monstrueux. C'est pour ça qu'on dit que les philosophes et les théologiens sont si sensibles à la mode. Aux garderies, des robes. Ils sont terriblement sensibles à ça. Ils ont une peine énorme de dépasser tout ça en comprenant que tout ça est d'ordre accidentel. Et je ne peux pas baser sur quelque chose d'accidentel. Je dois retrouver le réel. Alors le réel, ça a un immense avantage. Je le porte en moi. Je ne suis pas fait encore totalement par la science. La science voudrait bien, il y a eu des articles qui ont été faits comme ça, à propos de l'immortalité du corps de l'homme, on peut remplacer tous les doigts de pied. On peut refaire un nez. On peut retravailler le cœur. Alors, rêvons un homme où tout a été refait. C'était comme ça que c'était dit. Rêvons un homme où tout est refait. Alors, tout est refait avec des matières qui ne sont pas corruptibles. Donc, un homme entièrement refait par la science est incorruptible. Hein? Alors, voyez, ouf, ce sophisme est-il faux, hein? Mais c'est le sophisme que j'ai. Une fois, j'ai lu un article là-dessus, puis j'ai entendu quelqu'un qui reprenait ce sophisme. C'est très gros, hein? C'est très gros. Parce que c'est vouloir retrouver la substance par les accidents. Par la garderie. Et quelqu'un est mort, il a laissé tous ses vêtements. Vous les pendez, vous mettez en dessous des trucs, il est là. Puisque sa veste est là. Ses cheveux sont là, donc il est là. Et c'est aussi gros que ça, hein, comme genre de raisonnement. C'est assez affolant, mais ça prouve que le monde est arrivé à une très grande incapacité d'entrer en philosophie. Donc le philosophe doit trouver son cheminement. Parménide. Mais c'est une induction sur la causalité formelle, exemplaire, des formes en soi. Toute détermination implique une forme en soi, à l'état pur. Même les cheveux, c'est la fiction qu'on lui dit. Même la poussière en soi. Les cheveux en soi, c'est la perruque, je présume. C'est les choses en soi. On les reconstruit totalement en elles-mêmes. Alors, chez Platon, et c'est intéressant à voir, hein, c'est très intéressant, parce que c'est le premier génétique. Et le premier génétique conditionne, ne détermine pas, mais conditionne. Et dès qu'on est fatigué, ce premier génétique revient comme le premier de nature. C'est ça qui est très curieux. Alors, ce premier génétique, c'est justement Platon qui l'a découvert. Il l'a découvert à cause des critiques qu'on lui a fait. Alors, sur quoi reposent vos formes en soi? Alors, l'expérience, vous voyez, il revient à l'expérience, et on aboutit à une forme en soi. Mais c'est très pauvre comme induction, mais c'est quand même intéressant. C'est la première induction qui s'est faite en critiquant les formes de Platon. Et Platon a voulu justifier l'existence des formes en soi. C'est la première partie du Parménide. C'est facile à trouver. Du reste, c'est un livre qu'il faut lire, Parménide. Hein. Parce que, pas à cause de ça, mais parce que c'est le premier moment où on a critiqué Platon. Alors c'est intéressant de voir comment Platon répond et comment il essaie d'aller plus loin en se mettant à l'école de Parménide. Mais un Parménide inventé par lui. Un Parménide en soi. C'est-à-dire le Parménide parfait. Et alors on se met à son école et on découvre l'un en soi. Et on découvre tout point de vue de la participation. C'est le grand livre sur la participation. Aristote reprend ça. C'est pas étonnant, hein. Parce qu'au fond, dans le Parménide, il y a le jeune Aristote qui critique. Alors évidemment, historiquement, on dit ça ne peut pas être Aristote. Alors on va inventer un autre Aristote. Je veux bien. Mais c'est très significatif de voir, oui, combien les critiques historiques sont très souvent a priori. Rien, absolument rien, m'empêche de dire que c'est Aristote. Et personnellement, moi je suis persuadé que c'est Aristote. C'est Aristote qui critique Platon. Il l'a fait au moment où Platon a atteint le maximum de gloire, après la République, le grand livre. Et Aristote, avec sa précision énorme, montre que tout le Nabucodonosor, n'est-ce pas, la statue est merveilleuse, étonnante, une statue formidable, la République. C'est la première grande synthèse philosophique grecque. Tout ça repose sur les formes en soi. Or, les formes en soi n'existent pas. Donc, cette philosophie n'a aucune valeur. Elle est purement une œuvre artistique. Et, voyez, puisque Aristote critique Platon sur l'existence des formes en soi, et que Platon reprend par l'induction, je suis persuadé qu'il y a une s'est déroulé pour ainsi prendre. Du visible à l'invisible, ce que dira Merleau-Ponty, et il a raison de dire ça, que toute philosophie, c'est une démarche du visible à l'invisible. Et comme les interrogations sont diverses, là aussi, c'est le fruit de la réflexion aristotélicienne. Parce que chez Platon, le qui est-ce existe bien. Chez Platon, le pose existe bien. Mais tout est mêlé. Je crois qu'au plan critique, la grande découverte d'Aristote, c'est d'avoir vu que l'esprit cherche la vérité. Et que la vérité, c'est de saisir dans la réalité que nous expérimentons ce qu'il y a d'essentiel, distinct de ce qu'il y a de passager et d'accidentel. Découvrir l'être distinct du devenir. Toutes les réalités que j'expérimente impliquent un devenir, mais elles existent. Je peux donc distinguer, mais non pas séparer. Je peux donc distinguer tous les devenirs possibles et l'unité d'être de cette réalité. Or, dès que je vois cette distinction, je m'aperçois qu'il y a diverses manières d'interroger. Donc de distinguer les principes propres. Je peux interroger en disant qu'est-ce que c'est pour découvrir l'aspect de détermination, l'aspect de la forme. Cela, génétiquement, dans la découverte, c'est la première découverte que je fais par rapport aux réalités artistiques qui sont les plus proches de moi. Cette statue, c'est une statue. Elle est faite en telle manière. Elle est faite de telle façon. Elle est faite en vue de. Je découvre donc, à partir de l'analyse de l'œuvre d'art, faut pas l'oublier ça, l'œuvre d'art est au point de départ de toutes les analyses philosophiques d'Aristote. Alors on a beaucoup critiqué Aristote à cause de ça, parce qu'on n'a pas compris du tout le point de vue analogique. Si toute la philosophie d'Aristote était une philosophie univoque, ce serait terrible. On resterait uniquement au niveau artistique. Mais puisque Aristote respecte les différents niveaux d'intelligibilité, pourquoi ? Parce que l'œuvre d'art est plus proche de ma sensibilité que la nature. L'œuvre d'art est plus proche de mon conditionnement intellectuel que la nature. Donc c'est normal que ce soit à l'égard de l'analyse de l'œuvre d'art que je découvre les prix essentiel de l'intelligence. Comment l'intelligence analyse. Comment l'intelligence veut découvrir les principes propres de la réalité. Alors, quels sont les principes propres de la réalité artistique? Prenez une église romane, prenez une statue, prenez tout simplement, quand vous grattez sur votre feuille de papier, vous faites une œuvre d'art. Ce n'est lisible que par vous. Ça montre que c'est très très intelligent. Tandis que quand c'est écrit à la machine, c'est lisible pour tout le monde. Ce qui prouve que c'est incommunie. Tandis que de l'autre côté, pas du tout. Et n'importe quel homme un peu instruit pourra à travers votre écriture découvrir ce que vous êtes. Il y a toujours une possibilité de se tromper. pointe. Oui, puisque la rousse complète. C'est à partir de la roue que la pointe est décomposée, c'est évident, tu vois. Puisqu'une pointe, c'est une roue avec deux brancards, tout simplement. Et tout est comme ça, deux roues et le brancard. Qu'on soit assis ou debout, c'est ça. Et l'œuvre d'art commence là. C'est très pratique. On est... Parce qu'on a compris que l'homme devait s'asseoir. On a compris. dire ceci est. Je transpose donc cette recherche première du TST. Qu'est-ce que c'est selon la détermination, selon la cause formelle de ce qui est. Donc voyez bien la naissance de l'interrogation. Je le sais bien, je connais bien la réalité d'une façon descriptive, mais je veux l'analyser. Je veux découvrir en elle ce qu'il y a de premier. J'ai le besoin d'intelligence. Vous voyez, le principe, c'est ce qu'il y a de premier, hein, n'oubliez pas. C'est le principe, c'est ce au-delà de quoi je ne peux pas aller. Ce au-delà de quoi. Et donc, parce que c'est au-delà de quoi, il éclaire tout le reste. Le principe est mesure de l'ordre, de tout ce qui vient après. Il y a des tas de choses là qu'il faut essayer de comprendre progressivement. Que l'interrogation, qu'est-ce que c'est, cherche le premier. Le premier, dans l'ordre de la cause formelle, dans l'ordre de la cause matérielle, dans l'ordre de la cause efficiente, dans l'ordre de la cause finale. Et dans l'ordre de la cause exemplaire, s'il y en a un premier. Et si, tout de suite, la première chose que je cherche, le premier, dans l'ordre de la cause formelle, c'est-à-dire, quelle est la première détermination ? Première dans le sens perfection, pas génétiquement. Quelle est la première détermination de mon je suis, de ce qui est dans l'homme, de ce qui est dans toutes les réalités. Quelle est la première détermination? Vous voyez, c'est très très important de bien comprendre par l'interrogation ce qu'on cherche. Si on ne voit pas clairement ce qu'on cherche, on ne découvre rien. C'est normal, ça. On a besoin d'avoir toujours le pôle nord devant soi pour pouvoir avancer de façon correcte si on est en pleine navigation. Alors, vraiment, alors à partir de là, on voit toutes les choses qui sont à côté. Alors je me pose la question, qu'est-ce que c'est que l'être? C'est-à-dire, qu'est-ce qui est premier dans l'être, en tant qu'être? Et qu'est-ce que c'est que cette détermination première et détermination seconde? Or, comprenez bien, or, toutes les déterminations de l'homme, le philosophe les a atteintes en analysant le langage. Je fais appel là à l'intelligence commune des hommes et de tous les hommes. Oui, ça a été la première recherche d'Aristote. La philosophie, c'est une œuvre commune de toute l'humanité. C'est jamais une spécialité. C'est une œuvre commune de toute l'humanité. Si je suis intelligent, je fais partie de cette œuvre commune de toute l'humanité. Et j'entre en philo. C'est comme ça que la philosophie, c'est comme ça que les sagesses universelles pour tous les hommes. Or, tous les hommes ont cherché quelles sont les déterminations propres de l'homme. Et ils ont découvert progressivement ce qu'on appelle les prédicaments. Les dix prédicaments. Quels sont ceux parmi vous qui ne connaissent pas les dix prédicaments? Oh, quand même quelques-uns, alors il faut les reprendre du reste. Quels sont ceux qui les connaissent parfaitement? Ah, voilà, il y en a au moins un qui les connaît, c'est suffisant. Parce qu'il est princeps. Alors on va déterminer les dix prédicaments. Je donne un animal, puisque l'homme implique génétiquement l'animal. Mais en disant ça, je diminue la qualité d'intelligibilité de Pierre. C'est moins intelligible de dire Pierre est un animal que de dire que Pierre est un homme. Ça, c'est facile à comprendre. Parce que quand je dis Pierre est un animal, je le ramène à tous les animaux. Quand je dis qu'il est un homme, je le ramène à tous les hommes. Et les hommes sont plus que les animaux. Qualitativement. Évidemment, quand je dis que cet animal est raisonnable, je définis logiquement l'homme. Je le définis quantitativement. C'est-à-dire logiquement. Je montre qu'il y a animal et raisonnable. Ensuite, quelle est l'autre détermination? La plus simple, la plus visible, sa quantité génétique, au point de vue génétique, c'est la quantité que je vois le plus. Sa quantité. Il pèse tant. Alors ça devient évidemment exceptionnel quand vous pesez au-delà de 100 kilos. Mais mon père, je ne connais pas votre sœur. Elle vous ressemble. Alors le père Carrégo répond, vous la distinguez tout de suite, elle est très intelligente. La prudence, la sagesse, les sciences, les arts, toutes les qualités, tout. Puis, vous arrivez à des qualités un peu distinctes, mais qui proviennent de cela, ce sont des qualités de qualité. L'action et la passion. L'action et la passion. Vous êtes capable d'agir. Pas seulement à la boxe. Vous êtes capable d'agir sur quelqu'un par vos raisonnements. votre manière de vivre. L'action et la passion, vous êtes capable d'encaisser, de recevoir, de vous laisser mouvoir. Vous avez ensuite l'analyse du mouvement. Et vous pouvez vérifier que tout mouvement implique une mesure. Le temps et le lieu. Tout mouvement physique. Le temps et le lieu. Vous ajoutez ensuite la relation. Le temps et le lieu. Vous ajoutez le situs. Le situs, c'est la manière de se tenir par rapport à l'ensemble. Équateur, ça c'est le situs par rapport au monde. Je suis au pôle Nord, un autre situs. Je suis un pays tempéré. Là, vous voyez, c'est à l'égard d'un tout. La référence par rapport au tout, et la situation qu'on a par rapport au tout. Et puis enfin, l'habitus, c'est-à-dire toutes les choses dont vous êtes capable d'user. Vous usez d'un instrument. L'usio est un instrument habitus. Et ça, ça joue aussi énormément, cette question d'habitus. Puisque seul l'homme, vous voyez, c'est un prédicament qui est propre à l'homme, seul l'homme use des choses. Oh non, ce serait le singe qui plus facilement pourrait, mais par mode d'imitation. Vous voyez, un singe qui se sert d'un bout de bois pour faire tomber un fruit. Ça, ils sont capables de faire ça. Donc là, quand vous voyez, fait par un homme, vous dire, il y a l'habitus. Et là, qui doit regarder, qui doit, l'homme qui organise son travail. L'animal ne l'organise pas. Et vous l'organisez en utilisant divers instruments. Et divers instruments dans tel lieu à tel moment. Là, je crois que Saint David dit ça. Substance. Substance première, mais substance première est en dehors, donc substance, acuité, quantité, qualité, action, passion, lieu, temps, raison, situs, habitus. Vous avez dit prédicament. Vous voyez, mais il y a un peu un fourre-tout, un capharnaüm dans le dernier. Tout ce dont j'use, je me sers d'une pipe. Bon, la pipe me modifie. Et je modifie la pipe. On voit ça aux dents. Un fumeur de pipe. Et on voit que la pipe a été usée. Parce que vous êtes ça. C'est pour ça qu'une pipe est quelque chose de si individuel. Je ne dis pas personnel, mais de si individuel. Parce que les dents l'ont fait. détermination, toutes ces 9 déterminations sont en dépendance de la première, qui est la substance. L'homme, c'est une qualité substantielle, quantitative. C'est une qualité qui me détermine dans ce que j'ai de premier. Toutes les autres déterminations sont dépendantes de celle-là, donc elles sont ma première. Vous voyez, alors là, on pourrait développer ça longuement. Aujourd'hui, ce serait peut-être nécessaire de le développer pour qu'on comprenne bien ce que c'est que cette réduction de toutes les déterminations secondaires à la première. C'est très important, ça. C'est très facile, c'est pour ça que j'ai pas besoin de le faire, vous pouvez le faire vous-même. Prenez la table des prédicaments que je viens de vous donner, et puis voyez que tout dépend.
Aristote
a découvert le dépôt. pas premier dans l'ordre de l'être, c'est second. C'est l'intentionnalité. C'est l'être de raison que je regarde, l'universel. Ce qui est premier en logique, c'est le sujet. C'est Pierre, sujet. Ce qui est premier au plan métaphysique, ça ne peut pas être le sujet. Pourquoi ? Parce que le sujet reçoit des déterminations. Et des déterminations essentielles, quantitatives. Pierre est homme. Et en disant ça, je détermine ce qu'est Pierre. Alors je vois que, au plan métaphysique, il y a un premier.
C'est une division au niveau du langage.
niveau logique. Tandis que pour Sartre, c'est une division dans l'ordre de l'être. Alors ça, c'est très intéressant à noter pour voir tout de suite le décalage. Et ceci, c'est pas étonnant, parce que toute la scolastique a confondu la substance première, Pierre, le sujet, avec la substance métaphysique, c'est-à-dire le principe propre de ce qui est. Donc, tout l'effort du philosophe, de philosophie première, c'est de comprendre la distinction entre homme et Pierre, et de montrer que ni l'un ni l'autre ne sont premiers. Ils sont corrélatifs, donc ils ne sont pas premiers. Alors qu'est-ce qu'il y a de premier? Ce sera la substance, principe, dans l'ordre de l'être, qui unit substance première, substance seconde, les unit en les dépassant. Et ce sera la première quiddité. Ce sera la, je veux dire, la, le premier principe métaphysique que l'intelligence va saisir par l'induction. Et vous découvrez par là tout procédé inductif. On saisit deux réalités, ou une réalité et une notion que vous opposez. Ces deux notions sont corrélatives. Qu'est-ce qui fait le lien entre les deux, alors qu'apparemment c'est si divers? Et chercher le lien entre les deux, c'est chercher le principe commun qui est présent dans la réalité et qui est présent dans la manière dont je le connais. Nous continuerons d'essayer de bien entrer dans cette induction.